2 Thessaloniciens, chapitre 2, si vous voulez bien vous y tourner avec moi. Nous avons étudié l'an passé la lettre, pas la lettre, mais le livre du prophète Ésaïe, et nous avons dit combien on voyait la place critique de l'annonce du retour de Jésus-Christ sur terre. C'est un sujet que l'on trouve tout au long de la Bible. Ce n'est pas une drôle d'idée que quelqu'un aurait eue en se disant « Tiens, on va dire que Jésus revient ». Non, le mot le plus réjouissant de toute la parole se trouve peut-être dans la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 16, verset 22. Ce mot, c'est un mot que vous connaissez pour l'avoir peut-être vu à l'arrière de livres, de disques, de CD, d'enregistrements, de musique. C'est le mot Maranatha, Maranatha, qui veut simplement dire c'est le Seigneur revient ou vient Seigneur, son retour. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que lorsqu'on voit le monde aujourd'hui, on voit beaucoup de souffrances, on voit beaucoup de corruption, de guerre, de misère, de souffrances, de maladies. Mais Maranatha, Maranatha, c'est le mot araméen qui se traduit par le Seigneur revient, ou qui est presque une invocation où on dit « Viens vite, Seigneur ». Alors c'est vrai que des fois, à certains moments de la vie, on n'a pas envie que le Seigneur revienne trop vite. J'imagine que Tonio ne dit pas « Maranatha » ce matin. Peut-être après le mariage. Mais en fin de compte, on a tous besoin et on a tous envie de ce retour. Ce retour, c'est des fois ce qui est appelé l'avènement du Seigneur. On va lire les versets 1 à 12 du chapitre 2 de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler, dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne de vous ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous, et maintenant vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Quel est le contexte? Nous avons dit que Paul avait fondé cette église à Thessalonique, en Macédoine. Quelques mois auparavant, il n'était resté que 3 semaines pratiquement. Il n'avait passé que 3 sabbats avec ses Thessaloniciens et il les avait laissés forcés par des persécutions. Des chefs religieux l'avaient chassé. Il avait continué son deuxième voyage missionnaire. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'en quelques semaines, on aimerait bien avoir les CD ou les DVD ou les MP3 de cet enseignement. L'enseignement de base de l'apôtre Paul, il parlait de la prophétie, il parlait des prophéties. Aujourd'hui, l'Église a tendance à se méfier des prophéties. L'Église, souvent, soit embrasse complètement l'enseignement prophétique. Il y a même des danses et des rubans prophétiques et des manifestations où on attend à ce que Dieu nous révèle de nouvelles vérités. Et puis dans d'autres églises, au contraire, on touche même pas à l'étude du livre de l'Apocalypse, parce que c'est trop controversial, c'est trop sujet à controverse. On ne sait pas trop, il y a eu tellement de choses bizarres qui ont été enseignées, qu'on n'y touche pas. Et pourtant, c'était, pour l'apôtre Paul, je crois qu'il savait de quoi il parlait, c'était un sujet de base, c'était un sujet dont il parlait. Vous vous souvenez qu'il leur avait expliqué dans sa première lettre, il leur avait précisé les choses pour dire que, on peut regarder, il ne voulait pas qu'ils soient dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui étaient morts, afin qu'ils ne s'attristent pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance de vie éternelle, de vie avec Dieu. Et il disait au verset 14 du chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens, en effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, ça c'est la base, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, pour son retour, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts. Car, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous avions vu que il était très clair que pour Paul, il y avait un enlèvement de l'Église, un enlèvement de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui ont accepté son sacrifice pour leur salut. Ils seront enlevés avec Dieu dans les airs. C'est le retour de Dieu, de Jésus, à la fin des temps, se fera en ces deux étapes, si on explique ces passages logiquement. Le Seigneur va reprendre et enlever son Église, et puis à la fin des temps, après la grande tribulation dont il est question dans Matthieu 24, dans Thessaloniciens, dans Daniel 9 et d'autres passages, Dieu reviendra avec son Église pour établir son royaume de 1000 ans. Il y aura la bataille d'Armageddon où Dieu détruira les forces du monde qui s'opposent à son règne. Et lorsque nous allons en Israël, nous pouvons voir le site même où aura lieu cette bataille. Un lieu, une grande plaine que l'on peut voir du sommet du mont Carmel et d'imaginer qu'il y aura, selon l'Apocalypse, selon le livre de l'Apocalypse, une bataille de Jésus et de son peuple contre les troupes qui s'opposeront à lui encore à ce moment-là. C'est quelque chose qui bouleverse, de voir ce lieu et de savoir que toute la Bible nous dit que c'est là que ça va se passer à la fin des temps. Ça vaut le voyage. Et ce retour, là, nous en avons parlé en étudiant le livre de Daniel dans les études bibliques du mardi soir de l'école biblique. Il va y avoir, rien ne doit se passer avant ce retour de Christ pour son Église. Nous devons vivre comme s'il pouvait venir, et il peut venir à chaque instant sans signe précurseur. Il veut que nous soyons convaincus qu'à tout moment, nous devons nous tenir prêts. C'est pour ça qu'il nous dit de veiller, d'être prêts. S'il nous disait « je viendrai après qu'il y ait un éclair de couleur verte et bleutée que tout le monde entier verra », on dirait « bon ben, on saura qu'à ce moment-là, il faudra se préparer ». Mais la Bible veut que nous vivions chaque jour comme si ça pouvait être le dernier jour. Pour ce qui est de cette date, Jésus a dit « même le Fils ne le sait pas ». Et pourtant, dès que Dieu dit qu'on ne peut pas savoir, alors tous les hommes cherchent à savoir. Et c'est là qu'il y a tous les fausses religions, les sectes qui arrivent en disant « on a trouvé la date ». Voilà. Les témoins de Jéhovah ont déjà annoncé le retour de Jésus au 19e siècle, au début du 20e siècle, et ainsi de suite. Et leurs prophéties, si on s'en tenait à la Bible, sont source d'un jugement sur eux. Lorsqu'un prophète se trompait, on lui disait pas, c'est pas grave, hein, tout le monde peut se tromper. Non, un prophète qui annonçait de fausses choses était mis à mort dans l'Ancien Testament. Et cet enlèvement, une fois arrivé, dans l'Apocalypse, on voit qu'il est question de l'Église dans les premiers chapitres. Et puis, il y a une expression au début du chapitre 4 de l'Apocalypse, « après cela », « après ces choses ». Et Jean vient de nous faire part des lettres dictées par Jésus lui-même aux sept églises de l'Apocalypse, qui représentent non seulement sept églises locales de l'époque de Jean, mais aussi une histoire de l'Église au fil des temps. On n'a pas le temps de s'y pencher trop ce matin, mais c'est l'idée de l'Église est très présente dans les trois premiers chapitres de l'Apocalypse. Et puis, il n'en est plus question à partir du chapitre... plutôt, c'est à partir du chapitre 6. L'Église voit les choses d'en haut. L'Église a été enlevée par Dieu et là, elle voit l'arrivée de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est cette période de 7 ans. Et on va y revenir dans notre texte. Mais ça, c'est pour placer le contexte. Et Paul écrit cette deuxième lettre, il veut rassurer. Il veut rassurer les Thessaloniciens parce qu'ils s'inquiètent beaucoup. Ils sont persécutés. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens persécutés de par le monde de façon très sauvage, de façon très remplie de haine et de souffrances terribles. Nous devons prier pour nos frères qui sont victimes de ces persécutions, sachant que malheureusement, c'est souvent lorsque la persécution fait rage que la foi grandit le plus vite. Les chrétiens chinois ont été persécutés pendant des années et l'Église chinoise est une Église qui a grandi beaucoup, pas seulement en nombre, mais aussi en solidité, en profondeur de foi et en consécration. Il y a deux fois autant de chrétiens chinois que de français. Alors c'est vrai qu'ils sont très nombreux, ils représentent toujours qu'une petite portion, mais la persécution produit du fruit. Et certains de ces frères persécutés ne nous demandent pas qu'on fasse cesser les persécutions. Ils nous demandent plutôt la force qu'on leur compris pour que Dieu leur donne la force d'être à la hauteur et à la hauteur et capable de résister et de vivre avec ces persécutions. Et souvent, quand je vois la tiédeur de ma consécration, de ma vie, je me dis que peut-être la persécution filtrerait mes motivations, filtrerait ma vie, et peut-être que ne plaise à Dieu, c'est ce qu'il doit faire venir sur notre pays pour que l'Église se bouge, l'Église soit consacrée, l'Église prie, l'Église travaille, l'Église donne, l'Église fasse confiance à Dieu pour se révéler dans notre pays. Ces gens étaient inquiets parce qu'ils voyaient ces persécutions, ils se disaient: ça y est, la grande tribulation est arrivée et nous, on est toujours là, donc on n'a pas été enlevé, on n'a pas été sauvé, on n'a pas fait part de cet enlèvement de l'Église. Nous n'avons pas été rassemblés auprès de lui. Le verset 2 fait allusion à des manipulations. Il leur dit: ne vous laissez pas ébranler, ne vous laissez pas désarçonner, ne vous laissez pas inquiéter. Réfléchissez. Certains vous disent, c'est les quelques inspirations, quelqu'un a dit, en fait, ça y est, je sais, on est arrivé, c'est maintenant la période de la tribulation. La période de la grande tribulation, un des termes équivalents dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est le jour de Dieu ou le jour du Seigneur. Il leur dit: ne croyez pas que la grande tribulation est arrivée maintenant. Il faut faire une grande distinction, c'est que la grande tribulation, c'est un jugement de Dieu. Le jour du Seigneur, c'est pas un seul jour, c'est un événement qui dure sur beaucoup de temps. C'est la colère de Dieu contre l'homme rebelle. Alors que les persécutions, c'est la colère du diable contre les chrétiens. Donc réjouissons-nous lorsque nous sommes persécutés, mais ne nous réjouissons pas lorsque nous avons si nous sommes victimes de la grande tribulation ou si nous sommes victimes du jour du Seigneur. Et Paul veut les rassurer, il leur dit: non, ce que vous vivez maintenant, c'est pas la grande tribulation, ça veut pas dire que vous avez raté le coche. Lorsque l'Église a été enlevée, vous n'êtes pas resté parce que vous étiez des pécheurs qui n'étaient pas vraiment pardonnés. Non, le jour du Seigneur n'est pas là. On attribuait, apparemment, d'après ce verset 2, une lettre qui aurait été attribuée à Paul. Et ça, c'est un avertissement, une mise en garde. Paul, quand il a continué après Thessalonique, il est passé à Bérée. Il a fait le compliment de ces Béréens parce qu'il regardait pour voir si ce que Paul leur annonçait en personne correspondait à ce qu'ils pouvaient trouver dans la parole. Et c'est une règle d'or, ne vous laissez pas trompé. Dieu vous donne le discernement. Vous pouvez prier pour avoir le discernement. Quelquefois, on se sent perdu, mais si on me ment, comment puis-je savoir la vérité? La parole que vous avez entre les mains, que Dieu a préservée, la version de l'Église à travers les siècles, pas la version modifiée des témoins de Jéhovah ou d'autres versions ou d'autres textes soi-disant sacrés, ne vous laissez pas tromper. Venez voir si ce qu'on vous annonce dans la parole est la vérité. J'irai même plus loin. Je sais que des fois on est un peu décontenancé, on est un peu perdu devant c'est pas un gros livre. Mais quand on commence à l'étudier, on dit: oh là là, 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament, tous ces termes que je ne connais pas, je ne suis pas assez instruit pour pouvoir comprendre tout ce qui est dit. Alors je vais aller voir ce qu'un tel a dit à ce sujet. Je vais aller voir ce que dit le pasteur. Je vais aller prendre ce nouveau livre qui vient de sortir à la librairie évangélique qui explique la Bible. Ces choses sont bonnes, peuvent vous aider. Mais ne suivez pas un pasteur, ne suivez pas un enseignant, ne suivez pas sur Internet quelqu'un qui vous parle et qui vous plaît. N'allez pas suivre un auteur qui résume à sa façon. Il peut le faire très bien et puis sur certains sujets, il va partir en live. Et si vous avez des questions à ce sujet, je peux vous donner des exemples et des références. Encore une fois, c'est pas mauvais ces choses-là, mais on a tendance à donner autant d'importance au résumé de la Bible que fait Chuck Smith dans ses cassettes, à l'enseignement que Pierre peut dispenser le dimanche ou le mardi. Allez voir par vous-même. Soyez des lecteurs de la Bible. Vivez avec la Bible ouverte. Ne la laissez pas moisir sur une étagère. J'ai un prof, je prends quelques cours d'hébreu moderne à la fac, et elle nous met toujours en garde de pas laisser moisir le livre dans le cartable. Et c'est vrai que si on pratique pas, on sait plus dire une seule phrase. Si on va pas à la source, on n'est pas désaltéré. On peut prendre de l'eau dans un gobelet que quelqu'un a préparé pour nous. Mais c'est tellement plus enrichissant, plus rafraîchissant, plus riche d'aller à la source. Allez, utilisez ces choses, utilisez les choses que je vous dis, utilisez les livres que vous pouvez trouver, mais allez à la source. On a tendance à vouloir faire un système de croyance. Il y a, pour ceux qui font des études de théologie, il y a un sujet très important, c'est ce qu'on appelle la théologie systématique. Et la théologie systématique, ça consiste à reprendre toute la Bible en faisant un système. Et en général, quand on fait ça, on privilégie une approche par rapport à une autre. On va prendre une façon de voir les choses qui a été peut-être inspirée par un grand homme de Dieu à une telle époque. On va prendre saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Et c'est ce que Paul disait. Il disait, j'entends qu'il y en a qui sont pour Apollos, d'autres qui sont pour Pierre, d'autres qui sont... Moi, je suis pour Jésus. Et je veux vraiment vous mettre en garde et je veux vous encourager à aller dans la parole. Ne dites pas « je l'ai lu une fois ». C'est comme de dire j'ai mangé un bon repas dimanche dernier, je ne mange plus maintenant. Je prends juste des pilules, je prends juste des concentrés. Allez à la source, familiarisez-vous avec elle. Faites les rapprochements parce que vous les avez dans la tête. Vous entendez parler de Daniel, vous entendez parler de l'Apocalypse, de Matthieu 24. Pourquoi ? Parce que vous avez lu ces passages et vous êtes à même d'aller d'un passage à l'autre. Pas parce que je vous donne ma vision prémillénaire de l'enlèvement de l'Église. Après-tribulationniste, ça c'est des termes de théologie systématique. Quand on fait un système, on est obligé de laisser certaines choses de côté et de donner plus d'importance à d'autres choses. On fait donc un choix. Et ce choix, Dieu ne l'a pas fait. Il ne nous a pas donné un cours de théologie systématique. Ça, c'est notre vision occidentale des choses. On aime bien avoir un plan, premièrement. Petit 1, grand A, petit A. Et ça, c'est les livres de théologie systématique. Non, la Bible, c'est le raisonnement qui correspondait à l'époque. C'est la façon de parler des gens du Moyen-Orient. On parle de façon circulaire, il est dit. On va aborder un sujet, on y revient, on ajoute quelque chose, on reparle de ce sujet. C'est la façon dont on communique dans la vie. Quand on se voit, j'ai rarement, sauf si on veut résumer une conférence ou une réunion d'équipe où on a pris des décisions, un compte-rendu, un CV, on fait ce genre de choses. Mais dans la vie, on ne dit pas, tiens, premièrement, Dieu, j'ai toujours raison, deuxièmement, non, on parle. Et ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, on peut adhérer à telle façon de voir les choses, à telle vision, mais je vous invite tous, et je m'invite moi-même à ne pas suivre un homme qui a vu les choses d'une certaine façon. Même Chuck Smith. Et pourtant, c'est... Craig enlèvera ça de l'enregistrement. Mais il serait le premier à dire amen à ça. Personne, aucun homme n'a la science infuse. Et donc Paul leur disait, ne croyez pas ce qu'on dit, que j'ai écrit une lettre qui aurait dit que maintenant c'est arrivé. N'en croyez rien. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Avant que personne ne vous séduise d'aucune manière, que personne ne vous trompe, que personne ne vous attire à leur façon de penser par des arguments qui sont faux. Maintenant, Paul leur dit, et il nous dit, je vais vous dire des choses sérieuses. Je vais vous dire des choses qui sont inspirées par Dieu. Là, vous allez peut-être me dire, mais ça c'était l'opinion de Paul. Non, Paul parlait au nom de Dieu. Il était inspiré, il était mu par l'Esprit Saint. Et si on n'avait pas cette certitude sur toute la Bible, on ne serait pas là tous les dimanches à étudier et à voir si c'est l'opinion d'Esaïe, l'opinion de Sarkozy, de l'opinion d'Estrosi. On peut trouver des noms. On peut en trouver des gens qui ont des opinions sur tout. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Avant que le jour du Seigneur arrive, avant que cette grande tribulation arrive, il va y avoir des choses qui vont devoir arriver, qui vont devoir se passer. L'Église, elle aura déjà été enlevée, parce que sinon ces choses-là nous diraient « Ah, ça va, les choses vont se précipiter, il est le moment de suivre Dieu, de corriger les choses qui ne vont pas dans ma vie. » Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'avant arrive l'apostasie. Maintenant, vous êtes renseigné. Donc, vous attendez de voir l'apostasie. Il y en a qui savent ce que c'est que l'apostasie. Ce n'est pas un terme qu'on utilise au Café Colombe. Tiens, il y a une sacrée apostasie qui arrive. Où elle est, tu la vois, toi? Non, l'apostasie, c'est un mot un peu oublié maintenant. C'est se trouver en partance. C'est se départir, c'est s'éloigner. À l'aéroport, il y a les départs et les arrivées, il y aurait les apostasies et les arrivées. C'est s'éloigner, c'est rejeter. Il faut que ça arrive. Et dans ce sens, certains commentateurs pensent que peut-être ce mot pourrait être utilisé pour dire la grande tribulation, mais ce n'est pas ce que Paul dit, je pense. Il va y avoir un départ des valeurs, des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Des églises vont se dire des églises chrétiennes et vont avoir des pasteurs homosexuels, mariés, ensemble. On va faire l'apologie de toutes sortes de choses qui n'ont aucune place dans la vérité chrétienne. On va dire la parole de Dieu. Oh, ça c'est la parole de Dieu se trouve dans la Bible, mais ce n'est pas toute la parole de Dieu. Par exemple, il est dit que l'homosexualité, je vais y arriver, est une abomination devant Dieu. C'est un peu radical, ça. C'est pas très égalitaire. D'ailleurs, c'est interdit par la haute autorité de la défense de l'égalité des libertés, la HALDE. On va enlever ces passages, on va faire une version autorisée de la Bible. Vous riez, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Le fait que je dise ces choses, que ça aille sur Internet, je peux avoir des ennuis. La Bible nous dit de haïr le péché et d'aimer les pécheurs, parce que Dieu est le péché et il aime les pécheurs. Je n'aime pas le péché d'homosexualité, je déteste comme Dieu me le demande et comme Dieu dit que c'est un péché détestable, mais j'aime les homosexuels, parce que Dieu les aime et c'est pas un péché plus grave que la pornographie, c'est pas un péché plus grave que l'égoïsme, c'est pas un péché plus grave que le mensonge. Mais on vit dans un monde où il y a des groupes de pression qui veulent gommer ces choses. Et ça, c'est en train d'arriver. Il va falloir que l'apostasie soit arrivée. Je crois que quand elle sera là, on réalisera qu'elle est là. On voit les choses aller dans le mauvais sens, on voit les choses devenir de plus en plus terribles au niveau de la moralité, de notre société. On ne peut plus trop faire appel à la communion, c'est des conflits d'intérêts, c'est des guerres, il faut que ça va arriver, cette apostasie, cet éloignement, cet abandon des vérités chrétiennes. Le fait que Jésus est venu mourir pour mes péchés. On résumait l'évangile mardi soir dans Romains, en allant dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, c'est l'essence, un concentré d'évangile en quelque sorte. Lorsque Paul dit aux Corinthiens, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, et voilà l'évangile, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il a été vu par beaucoup de monde. Céphas, Pierre, les 12, plus de 500 personnes. Voilà, Jésus-Christ est mort pour mes péchés comme il est dit dans les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité, et il est vraiment ressuscité. Ça nous rappelle Pâques. Amen. Vraiment ressuscité. Ça, c'est les fondamentaux de la foi. Après, les visions de théologie systématique, c'est pas fondamental. Les gens se tromperont. Il y a peut-être des gens qui diront « Je veux pas m'en aller avant la grande tribulation », mais ils seront emportés par Dieu. L'Esprit Saint les fera monter. « Non, je veux rester parce que je vais avoir tort ». Il faut que l'apostasie soit arrivée, numéro un, que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Il leur rappelle, ne vous souvenez pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous. Il leur avait déjà parlé de ces choses. Il leur rappelle le bon sens. Il leur avait parlé de l'Antéchrist. Ce personnage de la Bible, qui porte plusieurs noms, notamment l'homme impie, l'homme de péché, l'homme par nature qui est pécheur, le fils de perdition. Ça veut dire qu'il est voué à la destruction. L'expression « le fils » de quelque chose, lorsque c'est pas une personne, ça veut dire que cette caractéristique, cette qualité caractérise la personne. Cet homme, il est un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou tout ce qu'on adore. Il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire lui-même passer pour Dieu. L'Antéchrist, L'Antéchrist dont il est question dans l'Apocalypse, chapitre 13 et le reste. Cet homme dont il est question dans Daniel. Cet homme qui va vouloir recevoir l'adoration qui est Dieu, qui sera issu, les 10 petites cornes de Daniel, qui sera issu probablement de l'Europe, de l'Empire romain revisité, peut-être de l'Union européenne. Il y a une époque où il y avait 10 États dans l'Union européenne dont les amateurs de prophétie étaient sûrs que c'était Chirac ou c'était quelqu'un de présent. Il faut que se révèle à l'époque, l'homme existera déjà, et il y aura cet homme qui sera d'une grande sagesse, beaucoup de charisme, et qui réglera les grands problèmes mondiaux. Ça, c'est pendant les trois premières années et demie de cette période de 7 ans qui sera la grande tribulation, qui va apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Waouh ! Les gens seront dans l'admiration. Et là, au bout de 3 ans et demi, il va se révéler pour qui il est. Il est inspiré par Satan, comme Judas avait été inspiré par Satan lorsque Jésus parlait du fils de perdition en parlant de Judas. C'était la même notion. Satan était venu l'habiter. Satan va venir habiter cet homme, l'utiliser. Et cet homme se fera adorer dans le temple de Jérusalem. Ça veut dire que pour que la grande tribulation arrive, il faut que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Et lorsqu'on va aller en Israël, Dieu voulant, on verra, on visitera des lieux où il y a déjà les plans du temple reconstruit. Le grand problème que l'Antéchrist aura à résoudre, c'est probablement de faire reconstruire le temple à l'emplacement du temple de Salomon, du temple dont il est question dans Ézéchiel. Ce temple, parce que maintenant, les musulmans ont construit 2 édifices, 2 mosquées. Et certains pensent que pour reconstruire le temple à l'endroit où il était, il faudra détruire une de ces mosquées. On parle de 3e guerre mondiale, ou 4e, ou ça va chauffer. Mais il est possible qu'il trouve une façon, peut-être que on peut reconstruire ce temple en dehors des enceintes, et que l'emplacement se trouve vraiment, j'ai pas de réponse. Faites-vous une idée par vous-même, il y a des choses passionnantes. On lit beaucoup de fiction. J'étais voir un film, là, je ne sais plus lequel. Fantastique, peut-être tu te souviens. Comment ça s'appelle ? Inception. Waouh ! Inception. J'ai toujours eu personnellement un problème avec les histoires fantastiques. Parce que la réalité est déjà si passionnante. La réalité est déjà si source de questionnement et je préfère m'exciter, me passionner sur quelque chose qui est encore à être révélé plutôt que d'aller voir les concoctions imaginatives de quelque auteur soit-il le plus doué de sa génération. Il y a des choses passionnantes. Le temple va être construit. Et Paul leur dit... Verset 6, « Maintenant vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. » Qu'est-ce qui retient ? Verset 7, « Car déjà le mystère de l'iniquité, du péché est à l'œuvre et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Il y a quelque chose qui retient le mal en ce moment dans le monde. Peut-être c'est une surprise pour beaucoup d'entre nous, on pensait que le mal avait déjà pas mal de liberté. La Bible nous dit, si vous pensez que ça va mal, accrochez-vous, ça va aller beaucoup, beaucoup plus mal. Et il y a quelque chose qui retient le mal, le mystère de l'iniquité. Le mystère, c'est quelque chose qui va être révélé, qui n'était pas encore connu, mais qui va être révélé. Beaucoup de ces choses, vous vous dites, mais Paul aurait dû être plus clair, il aurait dû clarifier les choses. Rappelez-vous qu'il leur avait déjà parlé de ces choses. On entend la partie d'une conversation, de la deuxième lettre de quelqu'un qui a déjà eu des contacts, qui a enseigné ces choses. Il leur précise certaines choses. Et pour nous, on peut dire, mais on n'a pas le début. Donc c'est par recoupement avec toute la Bible, encore une fois, qu'on comprend de quoi il s'agit. Il est question de quelque chose qui retient le mal et de quelqu'un qui retient le mal. Quelque chose, c'est le verset 6, c'est en neutre en grec, dans la langue grecque. Au verset 7, c'est au masculin, c'est celui qui retient le mal et encore disparu. Et le seul qui soit capable d'être considéré des fois comme une chose neutre et comme une personne, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Mais est-ce que ça veut dire que l'Esprit Saint va disparaître ? Non, certains vont être sauvés pendant la période de la grande tribulation. Ce qui va avoir disparu, ce sera l'Église. Ce qui retient le mal, vous ne le saviez pas, dans ce monde, c'est la présence de l'Esprit Saint dans l'Église. C'est l'Église, avec toutes ses imperfections, on a tendance à dire « oh là là ». Mais voilà ce que nous dit la parole. Si ça va pas plus mal, c'est parce que vous êtes là. Waouh. Vous, l'église de Pessicard, l'église de Fleuve d'Eau Vive, l'église baptiste, les églises de la ville, les églises de ce pays, les églises du monde entier, il y a la présence de Dieu dans son peuple. Et une fois que son peuple aura été enlevé, alors, à ce moment-là, le diable aura libre cours, la violence, les choses vont se mettre, vont aller beaucoup, beaucoup plus mal. On peut avoir peur de cet impie, de ce antichrist. Antichrist, ça veut dire, anti, ça veut dire contre, on est anti-drogue, ou ça veut dire à la place de. Et l'antichrist, il cherche à se faire adorer comme Jésus-Christ. Il y a une espèce de trinité maléfique entre le diable, l'antichrist et la bête, dont il est question au chapitre, dans les chapitres 13-14 de l'Apocalypse, et la trinité de Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Le diable essaye toujours d'imiter Dieu pour se faire adorer, depuis qu'il s'est mis dans le cœur qu'il était quelqu'un d'important. Il cherche l'adoration, il cherche la vénération. Et cet impie, sa venue, il va y avoir une arrivée, comme il y a l'avènement de Jésus-Christ, il y aura l'avènement de l'impie, il se produira par la puissance de Satan. Avec, et ça c'est inquiétant, toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Là aussi, on est souvent berné, on est souvent trompé parce qu'on voit des choses miraculeuses se passer dans tel mouvement qui peut être non chrétien, des mouvements pseudo-chrétiens. Un miracle n'est pas la preuve que c'est Dieu qui agit. Satan peut agir, il a une puissance, c'est un ange de grande puissance. Mais le Seigneur Jésus détruira par un souffle de sa bouche cet antéchrist. Trop souvent, et nous les chrétiens, nous avons une vision exagérée de la puissance de Satan. Nous avons la vision que c'est un monde manichéen dans lequel il y a une bagarre entre le Dieu du bien et le Dieu du mal, entre Dieu le Père et Satan. Ça, c'est une ancienne vision, c'est une ancienne fausse religion, c'est le manichéisme qui remonte aux religions de Babylone. Et on a l'impression qu'on... C'est un peu comme quand on fait un match où on tire à la corde d'un côté. Il y a deux équipes qui tirent sur une grosse corde et on voit de quel côté la corde va aller. Mais c'est pas du tout la réalité avec Dieu et Satan. Satan n'est pas dans la ligue de Dieu. Il aimerait bien pourtant. Il fait tout ce qu'il pourrait pour y être. Satan, c'est une créature. Dieu est le créateur. Satan a laissé la liberté à Satan. Dieu a laissé la liberté à Satan de le rejeter, de devenir celui qui ment, le père du mensonge. Mais celui qui est en nous est supérieur à celui qui est au dehors. Je ne sais pas si vous aimez les cafards, mais moi, quand je vois un cafard courir par terre, je l'écrase. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui aiment bien les cafards. Je suis désolé si je vous ai offensé. Mais quand j'écrase le cafard, jamais il y a le cafard, jamais j'ai rencontré encore un cafard qui me fasse un croc en jambe ou qui me retienne et qui dit « Pour qui tu te prends ?» Donc quand je les écrase, c'est ma puissance contre la puissance d'un cafard. Et Jésus va... Même pas un coup de chaussure. Dieu, quand il le veut, quand il a décidé, anéantira la puissance de Satan en un instant. Ne donnons pas plus d'importance à Satan qu'il aimerait qu'on lui en donne, déjà. Toute séduction de l'injustice, verset 10, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice. On va voir cette semaine dans Romains, on va étudier les versets 18 à 32 du premier chapitre, que Dieu donne la vérité, mais que si nous insistons pour la rejeter, il nous laisse croire à n'importe quoi. Et si nous ne croyons pas à la vérité, nous sommes prêts à croire à n'importe quoi. Les gens qui refusent Dieu, ils croient, dur comme fer, que le fait que Jupiter était dans telle position dans le ciel le jour où ils seront nés, où ils sont nés, fait que cette semaine, il ferait mieux de ne pas acheter une maison. Ben, ils l'ont lu dans l'horoscope. Hein. On le lit juste pour rire, mais quand même, on ne sait jamais. Et puis en plus, les horoscopes, qu'est-ce que ça décrit bien les gens ? T'es du Verseau toi aussi ? Ah ben, j'en étais sûr, hein, on a le même tempérament. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est inspiré par Satan. Et il y a une puissance dans l'horoscope, il y a une puissance dans les choses occultes. Mais Dieu nous dit, n'y touchez surtout pas. Pas pour nous empêcher de savoir ce qu'on doit faire cette semaine. Cette semaine, il dit, venez me demander si vous devez acheter cette maison, signer ces papiers. Et si on le refuse, si on refuse Dieu, à ce moment-là, Dieu nous laisse libre cours aux conséquences de notre refus. Dieu nous livre aux conséquences de notre incrédulité, de notre rejet de lui, de notre rébellion. Et ça, c'est terrible. Des fois, ça peut être pour nous amener à la fin de nous-mêmes, en espérant qu'à la fin, nous revenions à nos sens, mais quelque part, il y a aussi cet aspect judiciaire où c'est, tu refuses, tu ne veux pas croire, maintenant tu ne pourras plus croire. Si on ne croit pas la vérité et qu'on prend plaisir à ce qui est mal, c'est ce qui nous attend. Paul voulait clarifier les choses. Il dit des choses, je les ai exposées d'une certaine façon. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon agenda de la fin des temps, ce n'est pas grave. Mais allez voir par vous-même. Faites les recoupements nécessaires, regardez tous ces passages et demandez à Dieu de vous convaincre de la vérité. Cherchez la vérité. Ayez l'amour de la vérité. Amen.